La Xylochronique, une émission de Christiane Weissenbuescher. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur l'arbre qui cache en fait rarement la forêt, sauf peut-être l'arbre de vie que revendiquent presque tous les textes sacrés. Les différentes essences d'arbres ont inspiré tant d'émotions à tant de poètes et de musiciens, pour ne citer qu'eux, qu'il est difficile de n'en retenir que trois. En l'honneur de notre directeur d'antenne, mon premier choix se portera sur l'olivier. Pour les Grecs, c'est l'arbre d'Athéna, la déesse de la guerre, de la sagesse, de la stratégie, de l'intelligence, de la pensée élevée, des lettres, des arts, de la musique et de l'industrie. Et c'est de son feuillage qu'on couronnait les vainqueurs au concours d'Olympie en l'honneur de Zeus. Pour l'islam, l'olivier est le centre, le pilier et la lumière du monde. Et pour les chrétiens, non seulement toutes les onctions sacramentelles se font à l'huile d'olive, à commencer par celle du Christ, dont le nom signifie « loin du Seigneur » en grec, mais Jésus a prié au jardin des Oliviers avant d'être arrêté suite à la dénonciation de Judas, et bien plus tôt, lors du déluge, Dieu signifia son apaisement à Noé en renvoyant la colombe à l'arche avec un rameau d'olivier. À l'opposé de l'olivier et de ses valeurs positives, voici l'if. Si par sa longévité, qui se compte en millénaires, il représente un défi à la mort, voire l'affirmation de l'immortalité, comme pour les prêtres d'Éleusis qui en tissaient leur couronne, l'if est l'arbre du malheur, car ses aiguilles et ses graines sont toxiques et son bois est traditionnellement lié à la fabrication des armes. Les Grecs le vouaient à Hécaté et aux Érinies, c'est-à-dire à la déesse des ombres et aux divinités du monde souterrain. Virgile, dans ses Géorgiques, défend à l'if impur d'ombrager sa maison. Vaincu par César, le roi des Éburons, les Belges du 1er siècle avant Jésus-Christ, se suicida en absorbant une décoction d'if, et c'est le suc du même arbre qui servit à empoisonner le père d'Hamlet. Bref, cet arbre qui fut l'emblème funéraire des Celtes est encore aujourd'hui, notamment en Normandie, l'ornement des cimetières et le gardien des morts. Je terminerai avec le hêtre, qui est mon arbre préféré à plusieurs égards. Son tronc tout lisse, ses faines que ma grand-mère faisait griller à la poêle en automne, et son étymologie rocambolesque. Via le latin fagus, Le hêtre est en effet le cousin du buche allemand. Et ce buche féminin signifiant hêtre est le jumeau du buche neutre signifiant livre, notre bouquin. Car avant de fournir de la pâte à papier, les arbres tendres comme le tilleul ou le hêtre fournirent comme support à l'écriture leur libère, cette pellicule où circule la sève entre le bois et l'écorce et qui, vu sa texture fibreuse et feuilletée, permettait, une fois séchée, de produire des bandelettes sur lesquelles on pouvait graver des lettres, les Buchstaben ou bâtons de libère des Allemands. Voici le troisième des Zigeunerlieder de Schumann, dans lequel le chœur décrit un campement tzigane autour d'un feu dans une forêt de hêtres. Si je vous ai épargné le tilleul tchèque, le bouleau russe, le roi des aulnes, le solde d'Esdémone, le pin d'Atys, le laurier de Daphné, le myrte d'Armide, le chêne de Norma, les palmiers de Britaine, les cyprès de Saint-Saëns ainsi que le son du cèdre libanais, je ne manque pas de vous donner rendez-vous dans un mois autour du sapin de Noël.